bonjour tout le monde. Je voudrais tout d'abord remercier Jean-Philippe Jeunet et François Foronda pour l'invitation à cet important colloque. L'organisation est magnifique et l'hospitalité
c'est la casa,
à la Casa de Velázquez est vraiment charmante. J'ai beaucoup apprécié dans le programme scientifique que les organisateurs nous ont délivré, nous ont envoyé, l'accent posé sur la question constitutionnelle en tant que question de légitimité, en tant que question de fixation et de respect de normes ou d'ensemble de règles investies d'une valeur. C'est la définition que vous avez donnée aux participants à cette conférence. Et c'est pourquoi je crois que seulement si nous acceptons d'entendre de manière stricte, par constitution, un texte établissant la forme organique de l'État, puisque la production de ce type de texte n'intervient pas avant le XVIIIe siècle, nous pouvons penser qu'il n'y a pas de constitution médiévale. Bien entendu, moi aussi, Jean-Philippe, je suis bien conscient de l'ambiguïté du terme constitution pour la période médiévale, parce que si elle ne pose pas trop de problèmes au plan empirique, en pose en revanche beaucoup au plan théorique. Néanmoins, je crois que dans l'histoire de la pensée juridique, le plan empirique et le plan théorique, heureusement, coïncident largement. C'est pourquoi je crois qu'il faut refuser de donner le mot « constitution », même pour la période moderne, seulement à un système de règles. Un système de règles. Parce qu'il me semble que l'historien doit se méfier de définitions stricto sensu qui vient de la prétention de juristes d'établir un système scientifique de droit public et de donner aux historiens les outils pour les travaux. Il faut surtout se méfier de réduire la Constitution dans le sens du terme qui a triomphé au XIXe et au XXe siècle dans l'expérience juridique continentale, de la réduire à un système de normes, c'est-à-dire de préceptes, et de réduire en même temps la forme juridique d'une constitution à sa dimension légale. On ne peut pas réduire tout simplement l'ordre juridique à l'ordre légal, il me semble. Je suis donc d'accord, je cite, « le choix d'une définition plus large s'impose par conséquent », vous avez écrit. Je suis d'accord. Et par conséquent, je préférerais dire qu'il faut reconnaître que la Constitution, dans la tradition juridique de l'Occident médiéval, est tout d'abord un système de principes, ou pour mieux dire, un système de présupposés, où le pouvoir trouve sa légitimation et en même temps se limite. Parce que je crois que ce qui est vraiment constitutif d'un système juridique n'est pas ce qu'il est formalisé ou positivisé, mais ce qui est présupposé, ce qui est justement présupposé. En ce sens, je crois que l'idée d'une constitution, c'est-à-dire d'un statut fondamental capable de lier le pouvoir, est une idée éminemment médiévale. Ce dont le Moyen-Âge juridique qui réside le début de ces techniques juridiques de la liberté que nous appelons constitutionnalisme comme phénomène désigné tout d'abord à reconnaître et à garantir le droit des sujets et les limites juridiques à l'exercice du pouvoir. Autrefois, surtout dans un article paru comme introduction à un volume édité par le professeur, mes collègues italiens de droit public comparé, du droit constitutionnel comparé pour célébrer en 2007 la Constitution française. Et je remercie Jean-Philippe Genu de l'avoir cité avant-hier au début de cette conférence. J'ai rappelé que nous devons à Marc Bloch une déclaration apparemment paradoxale, parce que Bloch conclut la société féodale, son livre célèbre, paru en deux volumes entre 1939 et 1940, au début de la catastrophe dont sont sorties les constitutions de l'après-guerre. Il conclut la société féodale en écrivant que l'originalité du Moyen-Âge en Europe réside dans cet accent mis sur l'idée d'une convention capable de lier les pouvoirs, et qu'il a véritablement légué à nos civilisations quelque chose, dit Bloch, quelque chose dont nous souhaitons vivre encore. Un lien similaire entre le Moyen-Âge féodal et l'état de droit moderne peut apparaître paradoxal et peut-être politiquement conservateur et même contre-révolutionnaire, si nous sommes incapables de reconnaître l'unité essentielle et l'essentielle continuité de la tradition juridique occidentale. Je disais l'esprit juridique comme élément fondamental de la constitutionnalité en Occident, l'esprit juridique. La science juridique comme élément de la constitutionnalité en Occident. Il ne s'agit pas de rétablir ce faux historicisme médiéval dont nous a parlé avant-hier matin José Manuel Nieto Soria, ou d'opposer une mythologie juridique médiévale aux mythologies juridiques de la modernité. Il faudrait simplement reconnaître qu'il y a beaucoup d'éléments prémodernes dans la modernité politique, ou beaucoup d'éléments non modernes dans la modernité politique et juridique. Bien que la vulgate de notre temps nous ait enseigné que la modernité, c'est le bouleversement et l'anéantissement des anciennes structures sociales, juridiques, politiques, mentales de la société occidentale. Un des éléments peut-être retrouvés, je crois, même dans l'idée d'une constitution coutumière, c'est-à-dire de la coutume comme dépôt de valeur fondamentale, convention tacite, conventio tacita, comme source de contrat entre le souverain et ses sujets. C'est pourquoi le concept de contrat est la vraie source de l'idée de constitution entre le Moyen-Âge et la période moderne. En ce sens, il n'est pas paradoxal que l'expérience constitutionnelle du Moyen-Âge, avec son idée d'un fondement contractuel juré de l'obligation politique, soit rappelée par Bloch comme une des racines du constitutionnalisme moderne, de ce cercle invisible, comme le disait Tocqueville, un cercle invisible qui bornait le pouvoir. Aux origines du constitutionnalisme médiéval, il y a une conception du pouvoir que notre historien du droit, Paolo Grossi, qui aujourd'hui est membre du Conseil constitutionnel italien, de la Corte costituzionale, che Paolo Grossi ha nommé come incompiuto, incomplet, c'est-à-dire limité e borné par des principes et des règles éthiques et en même temps juridiques. C'est ici l'origine de charte du Moyen-Âge, Herrschaftsverträge, contrat de souveraineté, qui appartiennent aux généalogies constitutionnelles, au moment génétique de l'établissement en forme juridique et nouvelle de limite de pouvoir, même lorsqu'ils ont origine d'une permission et non pas d'une obligation mutuelle jurée entre souverain et sujet. Je trouve presque superflu de rappeler que tout ça faisait dire à Tocqueville, dans la première démocratie en Amérique en 1835, que, en ce sens, la démocratie telle que n'avait point osé la rêver l'Antiquité. s'échapper, je cite, s'échapper toute grande et toute armée du milieu de la vieille société féodale. Peut-être il faut rétablir une dialectique entre le Moyen-Âge et la modernité. Bien entendu, notre langue, notre langage accepte encore à peine le mot constitution et constitutionnalisme dans un sens différent de la plus haute manifestation du droit positif, de l'acte suprême de fierté, de pouvoir qui se limite, qui oblige lui-même, et par conséquent du champ limité et rassurant de la codification constitutionnelle, qui c'est une autre chose. Il y a la constitution, non seulement l'idée, mais la pratique de la constitution, il y a la codification constitutionnelle. On a écrit qu'il serait inapproprié d'attribuer l'existence d'une constitution dans le monde ancien ou médiéval à leur moyen d'imposer un système de limite de pouvoir. Il faudrait réserver strictement le concept de constitution et de constitutionnalisme à la théorie juridique de limite de pouvoir de l'État moderne, entièrement réalisé, parce que le constitutionnalisme ancien ou médiéval est devenu obsolète depuis l'avènement de l'État moderne et de la souveraineté. Je cite, « De lors que l'État moderne peut modifier la totalité du droit positif, la totalité du droit positif, les limitations opposées au pouvoir de gouvernant ne peuvent plus venir de la tradition ou de la coutume, mais de principes même qui rendent nécessaire l'établissement d'un pouvoir politique. » Il y a quelques années, l'historien du droit espagnol Bartolomé Clavero, qui a été rappelé même hier soir, hier matin, par plusieurs collègues, Bartolomé Clavero a posé cette question à propos de la constitution espagnole de 1978. Clavero a montré que dans toutes les langues européennes dont le texte constitutionnel espagnol a été traduit, il y a eu une difficulté singulière à interpréter le mot suivant. La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Il s'agit de la disposition additionnelle primaire de la Constitution de 1978. Qu'est-ce qu'un territorio foral? Et qu'est-ce qu'un derecho foral? Pire, qu'est-ce qu'un droit historique? Les juristes européens, et en particulier les juristes italiens, ne savent pas donner de réponse. Ils préfèrent ne pas traduire, confond par exemple les Italiens, ou traduire à moitié, non seulement parce qu'ils manquent de la notion historico-juridique de fuero ou de derecho foral, mais surtout parce qu'ils ne peuvent pas concevoir l'idée qu'on puisse attribuer une valeur constitutionnelle à la tradition juridique, c'est-à-dire à l'histoire qui produit un droit fondamental. Ils ne peuvent concevoir l'histoire comme source de droit. Donc, ils ne peuvent croire en termes normativistes que ce qui est préconstitutionnel, parce qu'appartient à l'histoire, préconstitutionnel peut devenir à bon droit constitutionnel. Et pourtant, Clavero a écrit, je cite, « Il n'y a pas de constitution dans l'expérience européenne qui soit rédigée sur un parchemin vierge. Nos constitutions modernes ont toujours une écriture subjacente. L'histoire du constitutionnalisme européen est en effet comme un palimpseste. Très simplement, on ne peut pas ignorer les écritures qui y sont cachées. Bien entendu, il ne s'agit pas seulement d'un problème de traduction en sens linguistique ou métalinguistique entre des traditions juridiques différentes. je ne sais pas de juriste italien disposé à admettre que le statut dont on a parlé par Gian Maria Varanini et par Andrea Zorzi, que le statut et le recueil de lois des anciens États italiens avant l'unification politique après la moitié du XIXe siècle appartiennent à l'écriture sous-jacente de la Constitution actuelle de 1948 et même du Statuto Albertino de 1848. Dans ce contexte, je crois qu'il faut réfléchir sur l'héritage de la doctrine du droit commun parce que les doctrines juridiques de la liberté ont été bâties sur ce terrain. Un grand historien de droit italien de la génération passée a montré que la science juridique du Moyen-Âge a fixé le limite du pouvoir par le même critère de légitimation de la loi. Il s'agit d'un pouvoir subditus legi, sujet à la loi. Sic ut quilibet cuius potestas limitata est. C'est la définition médiévale du pouvoir borné par la loi. Parce que le pouvoir ne peut pas rien décider sinon cum ratione et causa. Dans cette théorie, le droit est un obstacle insurmontable pour le pouvoir et ce détenteur. Le droit, non simplement la loi comme manifestation autoritaire du pouvoir, mais le droit. Le juriste n'hésite pas à élaborer des analyses raffinées de textes du corpus iuris où la loi romaine parlait du prince legibus solutus. Et le résultat est toujours la tentative de lier les mains au prince pour les contraindre à l'égard du droit. Nous savons que dans les corpus iuris de Justinien, la maxime princeps legibus solutus est, dans le digeste livre premier, titre 3, c'est la loi 31, est accompagnée de la maxime de la célèbre loi d'Ignavox, qui vous avez rappelé au début de cette conférence. La constitution, la loi écrite des empereurs Théodose II et Valentinien II, qui veut que le souverain soit legibus alligatus, soumis aux lois en raison de la subordination au droit de son autoritas. C'est le code Justinien, livre 1, titre 14, c'est la loi numéro 4. La loi d'Ignavox soutient qu'il est digne du souverain de se soumettre aux lois parce que l'autorité du souverain pendet, c'est-à-dire dérive, dépend de l'autorité du droit. Et se soumettre aux lois, submittere legibus principatum, signifie augmenter et non pas diminuer son pouvoir. Le système de limite de pouvoir réside donc dans la volonté de se conformer à une loi qui domine et contraint. Par conséquent, le constitutionnalisme prémoderne est caractérisé par la dialectique entre ces deux visages de la souveraineté. Le pouvoir souverain implique la solutio legibus, à savoir l'indépendance de la force coercitive de la loi, mais la souveraineté est dans le même temps limitée par la soumission à l'équité et à l'ensemble des principes de droit des gens et de droit naturel. Le cercle invisible qui bornait l'autorité et les pouvoirs par un système qui allait au-delà et au-dessus du droit positif. Dans ce double paradigme de la souveraineté que le Moyen-Âge juridique et politique hérite de l'Antiquité romaine, c'est l'honestas qui impose au prince de se soumettre aux lois. Comme le disait Tocqueville, alors la constitution du peuple était despotique et leurs mœurs libres. Le prince avait le droit, mais non la faculté, ni le désir de tout faire. Rien d'autre qu'un modèle primitif ou archaïque de constitution, c'est une question légitime. Cette tradition se perpétue jusqu'au seuil de la modernité et du constitutionnalisme moderne. On peut voir ce phénomène à partir de principaux exemples de la littérature juridique et politique du XVIe siècle, et en particulier dans ce manifeste de doctrine radicale dans le domaine du droit public européen, qui sont le Vindiciae contra Tyrannos. Il y a ici la traduction française. Le Vindiciae contra Tyrannos, publié en 1579 et immédiatement traduit en français en 1581, sous le titre de la puissance légitime du prince sur le peuple et du peuple sur le prince. Il y a la réciprocité d'une relation de pouvoir. Dans la crise de guerre de religion, étant déjà apparue la Franco-Gallia de François Hartmann, 1573, le droit de magistrat de Théodore de Bèze, 1574, le six livres de la République de Jean Bodin et le discours d'Innocent Gentillet, 1576. C'est-à-dire tous le texte qui formeront peu après la base nouvelle du droit public dans les pays réformés, surtout dans les pays réformés. Tout ce texte, bien que différent pour les intentions, ont posé la question de la nature du pouvoir et encore plus de ses freins, c'est-à-dire de ses limites constitutionnelles. Même Bodin et sa République, que hier matin ont été évoqués dans le magnifique exposé de Marie-France Renaud-Zegamet, témoignent d'un souci pour la question des limites du pouvoir royal, bien que Bodin refuse l'idée de la constitution mixte et de la soumission de l'exercice de la souveraineté au contrôle des États du royaume. Le Vindiciae contra Tyrannos, publié justement en opposition aux machiavélistes, mais surtout à Bodin, ont un début exemplaire. Le texte s'ouvre en rappelant la tradition et les règles du droit commun, avec la loi d'Ignavos et sa proclamation solennelle de la nécessité pour la majestas, la majesté, d'être limitée et soumise au droit. C'est le début du traité. Les empereurs Théodose et Valentinien, à Volusion, grand prévôt de l'Empire, c'est une chose bien séante à la majesté d'un qui domine sur les autres, de déclarer qu'il est prince lié aux lois. Aussi, notre puissance dépend de l'autorité du droit. Et à la vérité, c'est une chose plus excellente que la dignité de l'Empire même d'assujettir la principauté aux lois. Savoir, faisons ça tous, par la déclaration de substituer notre édit, c'est là que nous ne voulons souffrir, nous être loisibles. C'est le langage de la modernité. Nous pouvons lire le même texte dans le latin du code Justinien, mais ceci, c'est le langage de la modernité du XVIe siècle, de la fin du XVIe siècle. Ces traités qui exprime dans son titre de la puissance du prince légitime sur le peuple et du peuple sur le prince l'idée de la souveraineté partagée ou de la souveraineté jouée à deux, comme le disait polémiquement Bodin, en raison de l'obligation mutuelle sortie d'un double contrat entre Dieu et le peuple et entre le peuple et le roi, dont les principes de résistance sont vrais fondements idéologiques. Ce n'est pas simplement un discours de façon légitimiste, bien que le texte souligne plusieurs fois l'exigence de sauvegarder l'ancienne façon de gouverner les provinces, royaumes et empires contre une forme d'administration qui est bastarde, fardée, impudique et méchante. Le texte est divisé en quatre questions. Question expliquée dans ces traités. 1. À savoir si les sujets sont tenus et doivent obéir aux princes s'ils commandent quelque chose contre la loi de Dieu. 2. S'il est loisible de résister à un prince qui veut enfreindre la loi de Dieu ou qui ruine l'Église. Item, à qui, comment et jusqu'où cela est loisible. Trois, la question la plus importante, s'il est loisible de résister à un parent qui opprime ou ruine un État public. Et jusqu'où cette résistance s'étend. Item, à qui, comment et de quel droit cela est permis. Quatre, si les parents voisins peuvent ou sont tenus de droit donner secours au sujet des autres princes affligés à cause de la vraie religion ou opprimés par tyrannie manifeste. Surtout, la troisième question montre un recours presque systématique aux doctrines du droit savant et en particulier de Bartol, duquel sont très souvent cités les traités sur la tyrannie avec la célèbre distinction entre le tyran manifeste ex defectu tituli et le tyran ex parte exequiti, le traité sur les constitutions politiques de Regimine Civitatis. De ce dernier texte est tiré l'exemple antimonarchique de Samuel et de la déposition de Saül du royaume d'Israël, et même l'exemple de la constitution donnée par Dieu au roi David, dans le chapitre 17, le texte dit 18, mais c'est une erreur, de Deutéronome. C'est ici. Le texte dit « Nous avons montré ci-devant que c'est Dieu qui instituit le roi, qui les élit, qui leur donne le royaume. Maintenant, nous disons que c'est le peuple qui établit le roi, qui leur met le sceptre en main et qui, par ce suffrage, approuve leur élection. Dieu a voulu que cela se fisse ainsi afin que le roi reconnaisse que c'est le peuple, après Dieu, qu'il tient toute leur souveraineté et puissance, et pourtant que cela les induisit de rapporter toute leur sollicitude et adresse au profit du peuple, sans être si outrecuidé de penser qu'il y ait quelque naturel excellent et extraordinaire en eux, à raison de quoi ils aient été élevés par-dessus les autres, comme si citoyens, quelques troupeaux de moutons ou haras de bêtes à cornes, mais qu'ils se souvinssent, connussent, être de même paste, je ne sais pas comment on doit prononcer, parce que c'est le français qui n'est encore régularisé. Et condition que les autres, élevés de terre par le voix, et comme sur les épaules du peuple, jusqu'à leur trône, pour porter, puis après la plupart des charges de la République. Quelques centaines d'années avant que le peuple d'Israël demandât un roi, Dieu avait fait la loi du gouvernement royal contenue au 18e chapitre du Deutéronome, etc. Ce n'est pas un texte simplement légitimiste ou réactionnaire. C'est un texte révolutionnaire, je crois. Alors, je conclue. Le but du traité était donc très clair et précis, puisque c'était un discours, je cite, montrant comme il faut maintenir la vraie majesté du prince et du roi et conserver au peuple ce droit que les bonnes lois et mœurs approuvées de nation, le droit de gens, jus gentium, ont établi d'un même consentement. Comme on peut voir, le texte de Vindici et contra Tyrannos indique dans la coutume universelle du droit de gens, dans le consensus général du genre humain, la base du principe d'ordre constitutionnel de la monarchie. Les Vindici et contra Tyrannos sont un vrai trait d'union entre le constitutionnalisme médiéval et la modernité. Au début du XVIIe siècle, le contenu de ces traités forme la base pour la première tentative de systématisation du droit public de pays réformés, c'est-à-dire la politica méthodique di gesta du juriste allemand Johannes Althusius. Il écrit son livre en 1603, après la révolte des Pays-Bas, et en donne une nouvelle édition en 1614. La politica de Althusius proclame ouvertement le principe de la souveraineté du peuple, en faisant du prince rien d'autre que l'expression d'une fonction de commande soumise au contrôle d'une sorte de prototype de conseil constitutionnel, le tribunal de l'Euphorat. Le juriste allemand Otto von Guericke, à la fin du XIXe siècle, soulignait dans l'œuvre de Althusius une très forte nouveauté par rapport à la tradition du contractualisme médiéval, parce que Althusius attribue au peuple non seulement la revendication abstraite de la souveraineté, mais aussi sa complète pertinence, la proprietas et usus fructus. Le droit souverain appartient nécessairement et exclusivement au corpus de la société, corpus symbioticum. Ils sont, Althusius écrit, leur esprit, leur âme, leur souffle vital. Althusius ne refuse pas l'idée de la souveraineté. Il refuse la définition bouddhienne de la souveraineté, qu'il juge très proche à une forme de pouvoir tyrannique. Il s'oppose surtout à l'idée de l'absolutio legibus, à l'idée du pouvoir exempt de loi. Jamais on peut dire que le législateur soit exempt de loi, legibus solutus, parce qu'il est impossible de concevoir de loi mere qui vilis, de loi entièrement politique, c'est-à-dire de lois qui n'ont pas de contenu moral. Nulla est, écrit Althusius, nec esse potest lex qui vilis, quae non aliquid naturalis et divina equitatis immutabilis habeat admistum. Nam si haec prorsus discedit a sententia iuris naturalis, non lex dicenda est, sed nomine hoc prorsus indigna. En conformité à la tradition juridique médiévale, Althusius refuse l'idée que la loi se légitime simplement en tant qu'expression de la volonté d'un pouvoir souverain. Par conséquent, en s'opposant justement à ceux qui parlent de loi comme de pure forme juridique, leges mere qui vilis, Althusius dit que le souverain peut être solutus seulement relativement au contenu de la loi qui sont au-delà de la sphère du droit naturel. Il cite plusieurs fois les vindiques contra tyrannos, la loi digna vox, en déclarant d'accepter seulement à cette condition le concept bodinien de souveraineté. Cette solution, bien que liée à la tradition juridique médiévale, est quelque chose de nouveau et d'original dans la pensée de Althusius. Le pouvoir s'étend jusqu'au point où le droit constitue ses fondements et ses limites. Au-delà de ce point, le pouvoir cesse d'être conforme au droit et devient une tyrannie. C'est pourquoi la pensée de Althusius résume une tradition de très longue durée, représentée par des doctrines qui ont pour objet l'obligation mutuelle entre souverain et sujet, le pouvoir de contrôle des magistrats, les limites posées par les droits naturels et par les lois fondamentales. C'est une conception moderne, bien entendu. La modernité n'est pas seulement dans l'idée autoritaire de la souveraineté, c'est aussi dans cette idée de la souveraineté bornée. Mais c'est aussi une conception qui se fonde sur plusieurs éléments non modernes ou prémodernes, dérivés du constitutionnalisme médiéval, je crois. Merci.